Voilà, on va, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, passer à la suite de notre étude sur le livre du Lévitique. J'étais venu en janvier, je pense la dernière fois, et j'avais partagé donc sur le livre du Lévitique, vraiment la restauration du principe du Lévitique. Et c'était suite au séminaire qu'on avait partagé sur avant la venue du jour de l'Éternel, qui avait eu lieu avant. Et aujourd'hui, dans cette restauration du principe du Lévitique, ben tout d'abord, pourquoi une restauration du principe du Lévitique? Eh bien, parce que on a besoin de vivre comme des sacrificateurs. C'est ce que Yeshua a accompli pour nous. Et au niveau de nos couples et dans ce qui fait un couple, c'est-à-dire la relation du couple, on a besoin d'être restauré à l'image de ce que l'Éternel a créé entre l'homme et la femme. Et malheureusement, dans ce domaine, il y a une absence d'enseignement, parfois partiel, parfois total, malheureusement, dans le domaine de la sexualité. Alors, je vais être précis avec les termes que je vais employer. J'ai pas envie qu'on fasse d'amalgame ce soir, donc je vais donner des définitions au fur et à mesure. Mais en tout cas, dans le domaine de la sexualité, il n'y a pas beaucoup d'enseignements dans les assemblées, dans les églises. On peut se poser beaucoup de questions. Quel est le sens de la relation dans le mariage? Y a-t-il dans les Écritures un standard de sainteté? On peut aussi se poser la question, est-ce que mon couple vit d'une manière sanctifiée dans ce domaine? Quels conseils on peut donner au couple de manière générale? Est-ce que le plaisir dans la relation est interdit? Alors je sais que c'est un sujet tabou. Il y a une non-éducation. Vu que c'est un sujet tabou, on a hérité un peu ça du passé. Hein, on sait que dans le passé, un bon chrétien était un chrétien qui faisait vœu de chasteté. Or, dans les Écritures, on ne peut pas vraiment lier quelque chose de particulier à ça. Paul, c'est vrai, encourage les gens qui peuvent. Mais il dit, mais pour ceux qui veulent vivre en couple, c'est très très bien comme ça. Reproduisez-vous, Dieu bénit les relations, donc vivez comme un couple, comme bon vous semblera. Mais si vous pouvez vous consacrer entièrement aux choses éternelles, ben c'est vrai, une famille, ça inclut. Avoir une famille, c'est aussi le royaume de Dieu, dans nos maisons ou alentour de nous. Et donc, il y a vraiment une non-éducation, un tabou du passé ou pour une autre raison. Bon, on s'en fout, on va pas refaire le passé. Ce qu'on veut, c'est demander à l'Éternel vraiment de sanctifier notre futur. Et cette non-éducation. Parfois, c'est difficile pour des parents de parler à leurs enfants des relations intimes, même quand les enfants sont prêts à se marier. Moi, je me rappelle, avant que je me suis marié, j'en ai jamais parlé, ni avec mon père. J'aurais été encore plus gêné d'en parler avec ma mère, parce que c'est quelque chose en Europe qui est, voilà, c'est difficile d'en parler. Et du coup, il y a une non-éducation qui est présente dans l'église, dans la maison. Fatalement, ça laisse place à quoi? La non-éducation laisse la place à la dérive, malheureusement. Et de ce fait-là, ben, il se pourrait effectivement qu'on ait adopté un système mondain, un modèle mondain. Parce que si on ne l'a pas appris à la maison avec papa, si les parents ne nous ont pas éduqués, si on ne l'a pas appris à l'église, là où c'est saint, ben, forcément on a été influencé par le monde. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, les programmes scolaires sont tellement bien faits que vos enfants vont être éduqués à la sexualité. Quand je dis que c'est tellement bien fait, que les programmes sont tellement bien faits, c'est ironique. D'accord? Ils veulent leur apprendre dès leur plus jeune âge la masturbation. Bon, je passe tout le reste des termes que je serais vraiment très gêné de toute façon de dire devant vous. Mais en tout cas, il y a une vraie dérive à ce niveau-là. Ils veulent dès l'âge de 3 ans faire découvrir leur corps aux enfants dans des classes, dans l'éducation scolaire. Donc, croyez-moi, aujourd'hui, il y a vraiment un besoin urgent d'être éduqué à ce niveau-là pour ne pas laisser le monde rentrer au milieu de nous. Si on n'a pas été éduqué selon les valeurs bibliques, ben oui, il se pourrait malheureusement qu'on ait adopté un système, une pensée, un exemple mondain qui va malheureusement entacher et affaiblir notre couple. Si on ne vit pas ça de manière sainte et saine, on va le vivre de manière malsaine et forcément, ça va avoir un impact sur le couple. Alors, le but de cette soirée, on veut vraiment essayer d'entamer Alors, vous savez, un système aussi un sujet aussi compliqué que celui-là, ça ne s'enseigne pas en une heure. Je vais essayer de faire même un peu moins qu'une heure. Mais je veux simplement éveiller votre conscience et qu'on entame ce soir tous ensemble une démarche de restauration dans nos couples et à ce niveau-là particulièrement, et aussi pour l'éducation de nos enfants, quand ce sera le temps, quand ce sera le moment. Alors, une démarche de retour à un modèle biblique du couple, de la relation. Ben écoutez, l'un va avec l'autre, parce que s'il y a couple, il doit y avoir relation. S'il n'y a pas de relation dans un couple, il n'y a pas de couple. Parce que bibliquement parlant, ce qui fait le couple, c'est la première fois où ils s'uniront l'un à l'autre, ils formeront qu'une seule chair. Et c'est là où, devant Dieu, ils sont mariés. Même si on est passé à l'église, qu'on a fait oui, les alliances, bisous, kiss, soirée, machin, tchac, on n'est pas encore mariés tant qu'on n'a pas scellé l'alliance. Et donc, s'il y a couple, il y a relation. S'il y a relation, il y a couple. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, ce soir, on veut vraiment laisser place à l'Esprit pour restaurer ce qui doit l'être, afin que nous soyons sanctifiés davantage. Le monde se souille davantage, le peuple saint de l'Éternel se sanctifie davantage. Ça me rappelle des Écritures, je crois, je suis pas sûr. Je sais pas, Eddie, tu te rappelles? Alors, ce principe de sanctification qui augmente dans la fin des temps pour le peuple saint de l'Éternel, vous savez, c'est un bon signe, c'est un signe encourageant. Parce que c'est une dynamique très positive dans la fin des temps qui va causer que notre foi ne faiblit pas, que notre amour ne se refroidit pas et qu'on reste vraiment connecté encore plus intimement à l'Éternel qu'avant. Donc c'est vraiment une dynamique positive dans la fin des temps, qu'on soit sanctifié davantage. Et je pense que c'est pas pour rien que l'Éternel lève le voile, interpelle. J'ai entendu beaucoup de gens, même dans les semaines avant, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, ils ont dit « Ah, il faut faire quelque chose pour les couples ». Et pour moi, ça a été toutes des confirmations, comme quoi l'Esprit de Dieu agit au travers de tout à chacun. C'est pas parce que c'est moi ici qui vous parle que l'Éternel agit qu'au travers. Non, il agit au travers de tout à chacun, il sensibilise tout le monde là-dessus. Il lève le voile sur ces choses-là afin que notre sanctification aille en augmentant. Et comme je l'ai dit, c'est une dynamique positive dans le corps du Mashiach. Alors je voudrais mettre un cadre à cette soirée, si vous permettez quelques minutes aussi avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on a ma souris? Ce sera vraiment super pratique pour faire défiler. Merci. Le cadre de la soirée, alors je suis pas sexologue, c'est un titre aujourd'hui qui me répugne, donc je vais pas avoir une étiquette de sexologue. Encore moins sexologue chrétien. Je voudrais aussi éviter à tout prix la psychologie de comptoir. La psychologie de comptoir, ça veut dire qu'on ne va pas tenter d'expliquer le fonctionnement de l'être humain, corps, âme et esprit. Alors, on va essayer d'éviter la psychologie de comptoir. On va pas essayer. Parfois, bon, ces raisonnements, ils sont bien bâtis, ils sont bien exposés, ils sont bien construits. Mais très souvent, ou presque tout le temps, au fond, c'est complètement déconnecté de la réalité qu'on a dans nos maisons, dans nos foyers au quotidien. Alors, et des réalités ici, il y en a. Il y en a beaucoup des réalités ici. Chaque individu ici est une réalité à lui seul. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de la psychologie et des règles générales. Et des réalités, il y en a autant qu'il y a de personnes. Dieu l'a bien compris. Et c'est pour cette raison. Ah, c'est parce que j'ai pris la souris qui fait des interférences. C'est pour cette raison que Dieu, dans les Écritures, aborde toujours deux relations essentielles. Une relation individuelle, de personne à personne, de Dieu à personne. Donne-moi un micro à chef si tu veux. Alors je disais, des réalités, il y en a beaucoup. Il y en a autant qu'il y a de personnes ici. Et il faut absolument que ça passe. Oui, l'Éternel aborde toujours deux relations. La relation individuelle, de lui à la personne, et la relation collective. Il appelle tout un peuple à le suivre. Et parce qu'il y a des réalités aussi personnelles, ben c'est pour ça que Dieu a une relation particulière et intime avec chacun. Donc, ouais, j'avais écrit une phrase pour une blague. Mais bon, si je dis que c'est une blague, ce sera plus. Mais bon, enfin. C'est-à-dire avec chaque personne à part entière et entièrement dans sa particularité. Et puis, la blague, c'est que ça y est, je fais de la psychologie de comptoir. Donc, ce qui est extrêmement compliqué, c'est que chaque personne ici est unique parce que Dieu vous a créé comme ça. Dieu vous a créé chaque personne unique. Chaque personne est unique. Et forcément, si j'ai envie de lutter contre Dieu, ce qui est un combat déséquilibré, je vais vouloir tous vous faire rentrer dans le même moule. Mais seulement, on peut pas faire ça. Et c'est pour ça que ça sert à rien de faire de la psychologie de comptoir. Parce que généralement, ces trucs-là sont détachés de la réalité. Parce que ça concerne les gens. Mais les gens, c'est qui? C'est quoi? Et donc voilà. Moi, je veux pas lutter contre Dieu ce soir. Donc, je déclare KO avant. Je préfère me mettre dans son camp. Alors, je voudrais aussi éviter le Disney. Pas d'utopie. Je suis pas là pour vous dire le couple idéal, la relation idéale, c'est celle-là ou c'est comme ça qu'il faut faire. Ben parce que le couple idéal, il y en a pas. Faut arrêter avec ces principes utopiques. Il y a pas de couple idéal. Pourquoi il y en a pas? Généralement, je vais vous donner un exemple vis-à-vis de l'Église. Généralement, on dit qu'il faut retourner à l'Église primitive parce que c'était idéal. Ben, je suis pas toujours d'accord avec cette idée parce que ben, pour moi, l'Église primitive, elle est loin d'être idéale. Ce qui était idéal, c'est qu'Yeshua, il était là, il était venu, Jésus, il était présent, et ça, c'était idéal. Et dans un bref instant après son départ, l'Église a été idéale, mais c'était très bref. Vers l'an 40-50, ça commence à régresser déjà, donc voilà. Pour parler de l'Église primitive, pourquoi elle est pas idéale, je veux pas vous balancer des trucs que je veux pas fonder. Donc, si vous lisez la lettre aux sept églises dans l'Apocalypse, qui est écrite pour elle, aux sept églises de l'Asie mineure, y a plein de reproches qui lui sont faits, et pas des moindres. Tu as abandonné ton premier amour, vous êtes attaché à la doctrine de Balaam, qui était un faux prophète, prophète de Satan, et un sorcier. Vous mangez des viandes sacrifiées aux idoles, donc vous êtes en communion avec les idoles. Dans l'église, il y avait énormément d'immoralité sexuelle, ils suivaient la prophétesse Jézabel. Ils semblaient vivants, mais en réalité, à l'intérieur, ils étaient complètement morts. Ils sont ni froids ni bouillants. Ils sont malheureux, pauvres, aveugles et nus. Ça, c'est l'Église primitive. Je vous dis qu'on n'a pas besoin de vouloir lui ressembler, parce qu'en fait, on lui ressemble déjà. Donc, l'Église idéale, c'est l'Église qui est, qui elle doit être et faire ce qu'elle doit faire dans le temps présent dans lequel elle vit. Je vais répéter ça parce que c'est même un peu compliqué pour moi. L'Église idéale, c'est l'Église qui est, qui elle doit être, et faire ce qu'elle doit faire dans le temps présent dans lequel elle vit. Et ce serait bête qu'on soit resté bloqué il y a 2000 ans d'ici. Il y a eu des réformes entre-temps. Hein, donc voilà, comme quoi, il ne faut pas forcément revenir à ça, parce que par conséquent, ça veut dire qu'on n'aura pas évolué, qu'on n'évoluera plus. Eh bien, en tant que couple, vous savez, c'est un peu le même. Vous serez le couple idéal le jour où vous vivrez le couple que vous devez être, dans votre particularité, à part entière, la vôtre, qui vous êtes vous, Dieu vous a créé unique. Et à ce moment-là, quand vous serez dans cette réalité-là, détaché de la chair et au maximum dans l'esprit, ah ben vous serez le couple idéal. Et deux couples, trois couples, dix couples se ressembleront pas. Il y aura 10 couples idéals, il n'y en aura pas un, il n'y aura pas un modèle. C'est pas uniforme. Alors, maintenant, ce couple idéal, il vient s'insérer, effectivement, dans sa relation, c'est entre eux deux que ça se passe et l'Éternel, mais il vient s'insérer dans une communauté entière. Et forcément, là, il y a dans les lignes générales, il y a des choses qui nous sont prescrites par l'Éternel, auxquelles on va essayer de s'attacher un peu ce soir. Il y a un guide général, donc, il y a des notions qui sont réservées au peuple de Dieu de manière générale, donc collective, et qui sont liées à la relation intime dans le couple. Donc ce soir, comme je suis pas sexologue et ainsi de suite, je vais me focaliser, et que je fais pas du Disney, je vais me focaliser sur l'enseignement qui vient des Écritures à ce propos. Et particulièrement, vous l'aurez deviné, dans le livre du Lévitique, afin qu'on réinstaure cette culture dans le couple qui soit sainte. Je veux aussi vous dire que j'aurai pas réponse à toutes les questions. Je veux bien essayer d'y répondre. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'exposez pas votre vie privée comme ça, publiquement, devant tout le monde. Soit essayer de généraliser la question, et ok, on aura compris que finalement, ça, bon, mais enfin, soit. Ou alors, venez me voir en privé pour les hommes. Les femmes, je vous renverrai vers ma femme. Vous pouvez lui en parler, il faut que ça reste entre vous, et peut-être ma femme m'en fera référence, donnera la réponse demain. On va voir. On va voir comment ça va se passer, comment Dieu va guider. J'ai pas un mode d'emploi. Mais en tout cas, que votre relation et votre vie privée restent privées et intimes. Alors, voilà. Ça, c'est le cadre que je voulais mettre avant de démarrer. Et on va démarrer maintenant. Et donc, en janvier, je fais toujours un bref résumé de ce que j'ai partagé la dernière fois pour vous rafraîchir la mémoire. Mais je suis sûr que tous vous vous en rappelez, il n'y a pas de problème. La restauration du principe du Lévitique. Purifiez-vous et sanctifiez-vous davantage. C'était la suite directe du séminaire avant l'arrivée du jour de l'Éternel, avec sa conclusion qui était sortez de Babylone, mon peuple, sortez sans rien toucher d'impur, sanctifiez-vous, et ainsi de suite. C'est un beau message, vraiment exceptionnel, c'est des belles paroles de Yeshua, vraiment extraordinaires. Mais concrètement, comment sortir? Point d'interrogation. Et c'est ce que j'avais posé comme question à l'Éternel après ce séminaire. Je dis, ouais, mais comment on fait pour sortir? Et il m'a dit, ben, pour moi, la réponse, il m'a orienté, il m'a dit, c'est le livre du Lévitique. Vivre comme des sacrificateurs est votre porte de sortie de Babylone l'impure, c'est-à-dire du monde et du système mondain. Alors, vivez comme des sacrificateurs, des vrais, purifiés de l'intérieur, et pas seulement d'être purifiés dans les apparences. Et le livre du Lévitique, c'est un livre qui est très instructif. On y parle de la consécration, la sacrificature, les sacrifices que l'on offre à Dieu. On parle aussi d'un état, être rituellement pur ou être rituellement impur, ce qui n'est pas comparable à l'état de péché. Être rituellement pur ou impur, ce n'est pas égal au péché. C'est différent, c'est un état dans lequel on est. Et ensuite, le livre du Lévitique aborde une grande série de commandements qui parlent des principes d'une vie sainte. On verra ça demain plus en détail, justice morale, sociale. Tu ne voleras pas, tu tueras pas, tu convoiteras pas, et ainsi de suite. Alors, tout ça, c'est très pratique parce que ça nous permet de faire sortir le monde de nous. Quand on prend ces commandements à cœur, le monde sort de nous. Hein, nous sommes sortis du monde en passant par le sang de Jésus, mais est-ce que le monde est sorti de nous? Et Moïse, il y a des commentateurs qui disent que ils sont sortis d'Égypte, mais ce qui a été plus dur pour Moïse et l'Éternel lui-même, c'était pas faire sortir le peuple d'Égypte, mais c'est faire sortir l'Égypte du peuple. Ça, c'était plus compliqué. Et on l'a vu dans le livre des Nombres, entre autres. Alors, l'enseignement du livre du Lévitique joue un rôle central dans la vie physique et spirituelle du peuple de Dieu. Pouvons-nous nous passer de ce standard de sainteté à tous les niveaux, et plus particulièrement ce soir pour nos couples? Et c'est là où je rentre dans aujourd'hui, notre message d'aujourd'hui. Eh bien, bien sûr que non, on ne peut pas se passer de ce standard de sainteté. À l'heure où la cellule familiale et tous ses repères de la cellule familiale sont détruits par la bête, par son système, par les collaborateurs de ce système, nous devons renforcer les liens de nos couples dans la sainteté. Et cela passe par une relation intime, pure. Et quand je voudrais parler ce soir de relation intime pure, je vais employer le mot relation intime, pas relation sexuelle. Parce que j'ai tout écrit avec relation sexuelle, relation. Et puis finalement, j'étais très mal à l'aise avec ce terme, et j'ai dit, Seigneur, éclaire-moi pourquoi je suis mal à l'aise avec ce terme. Et l'Éternel, il dit, c'est pas une relation sexuelle, c'est une relation intime. Vous liez vos êtres intimement. C'est pas juste une relation de sexe, d'organes. C'est une relation intime qui va vous lier. Intimement, c'est avec notre moitié que ça se passe, et c'est même il y a même une relation très profonde qui se passe dans cette relation, même spirituelle. Donc, je vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est même une relation spirituelle avec la personne. Donc, on doit vraiment renforcer nos couples à ce niveau-là. Donc, on va employer relation intime pour parler de la relation qui est pure et relation sexuelle quand on va parler du modèle du monde duquel on veut sortir absolument. Alors, nous devons vivre en dehors du modèle mondain, passé, présent et ou futur. Parce que l'ennemi, en brisant les couples, il brise l'Église. En brisant un couple, en brisant une famille, c'est l'Église qui brise directement. La première Église, c'est la maison. La première église, c'est papa, maman, et s'il y a des enfants, les enfants. Ça, c'est la première église. Et quand toutes ces petites pierres vivantes se réunissent, eh bien, la grande église, ici, ce soir, s'en trouve augmentée, bénie, et ainsi de suite. Mais, si l'ennemi brise dans les foyers directement ces petites pierres vivantes. Et que ces pierres vivantes sont en fait des petites pierres mortes. Quand toutes les pierres se rassemblent dans la grande église, comment va en être impactée l'église? Négativement. Ce sera mort. Et le couple joue cette relation d'insuffler la vie dans son foyer. Et si ce qu'ils insufflent dans leur foyer n'est pas sain, les pierres qui sont dans leur foyer ne seront pas saintes et vivantes, elles seront mortes et impures. Donc voilà, je ne veux pas être trop sinistre ce soir, rassurez-vous. Si on est là justement, c'est l'Éternel a fait de nous des pierres vivantes, des sacrificateurs, et c'est pour continuer de nous sanctifier qu'on est là ce soir. C'est pas un jugement, c'est une main tendue de Dieu, je pense, pour nous ce soir. Alors, si je peux vraiment vous affirmer et vous dire, et c'est très rare quand je fais ça parce que je suis pas bête, je prends pas des risques inutiles, je suis pas prêt à jouer ma main au feu, comme on dit. Si je peux affirmer haut et fort, si j'ai une certitude ce soir, c'est qu'on ne peut pas se passer de ce standard de sainteté. Je veux pas vous partager simplement d'une manière scripturaire, mais aussi d'une manière, l'Éternel m'a donné une vision. J'étais un jour à la maison et j'étais en train de travailler à mon bureau et j'ai une vision. Et j'ai vu quelque chose qui m'a horrifié. Et, ben, vous savez, un enfant, quand il a peur, qu'il est horrifié, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers ses parents, son papa, sa maman. Et je me suis tourné, je dis, père, oh, qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que tu veux révéler par là? Ça fait peur. Et je vais vous partager cette vision qui sera le fondement de finalement ce qu'on va partager ce soir. J'ai vu un couple et je veux tout de suite spécifier que c'était un couple croyant. Je sais que dans l'église, il n'y a pas forcément que des relations croyants-croyants. Il y a des relations croyants et entre guillemets incroyants. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et cette vision ne concerne pas ces personnes. Bien qu'elles peuvent s'en inspirer, qu'elles peuvent être bénies par cet enseignement, il faut toujours... Le sens de la vision était clair et c'est dans ce cadre-là que ce que je vais dire a tout son sens, toute son importance. Dans d'autres cas, il faut avoir un commun accord avec notre conjoint non-croyant. Et ça, c'est primordial. Paul, il insiste énormément là-dessus dans la lettre aux Corinthiens. Donc, je vois un couple de croyants qui dort dans un lit. Et je vois entre ces deux croyants un démon horrible qui dort, qui est alité avec eux au milieu d'eux. Et il est tellement molle, il ressemblait à une gargouille. Vous savez les gargouilles qu'on voit là, ce démon qu'on voit sur parfois les rigoles d'église comme ça. Il était vraiment horrible, il était vraiment effrayant. Et il dormait au milieu de ce couple. Et c'était une statue en pierre qui est, d'ailleurs, il était fait de pierre, comme une statue en pierre. Et j'étais vraiment horrifié par ce que je voyais. Et tout de suite, je pose la question à l'Éternel. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Donc, vous voyez, la vision, elle est très brève. Hein. C'était un flash, une image. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Et comme le Seigneur, il est bon et qu'il nous fait grâce, il m'a répondu. Et je suis pas plus saint qu'un autre parce que l'Éternel m'a répondu. C'est parce qu'il nous fait grâce, qu'il nous répond, qu'il nous guide dans nos questionnements. Et l'Éternel me dit, voici la signification de la vision. Le couple que tu vois est un couple de croyants, bon, j'ai déjà spécifié. Il dort paisiblement, ils pensent qu'ils sont en sécurité, ils sont sains dans leur relation l'un avec l'autre. Mais ils ne savent pas en réalité qu'est-ce qui se trouve dans leur lit, qu'est-ce qui est caché dans leur lit. Et l'Éternel me dit, ce démon c'est Astarté. Et ils ne savent pas que leur lit est pollué par la conception du couple, de la relation sexuelle, démoniaque. Et Astarté, je la connaissais pas, je me suis un peu renseigné sur cette déesse. Elle a traversé tous les âges. Depuis l'Égypte, on la retrouve jusque dans la culture gréco-romaine. Et aujourd'hui, ben nous, on va s'intéresser à celle-là qui est devenue Aphrodite, dans cette culture Aphrodite et Volupté, dans la culture gréco-romaine. Et donc j'étais vraiment mal après cette vision, vraiment très très mal, je me sentais vraiment mal, comme si j'avais un malaise, une indigestion quoi. Et comme je suis pas spécialiste de la mythologie en général, j'ai fait quelques recherches sur Astarté, et c'est très instructif aujourd'hui Google. Et bon, j'apprends au travers d'historiens sérieux, il hein, faut vérifier les sources. Hein. Elle est une divinité associée à Baal. Et déjà, c'est étonnant que dans les Écritures, dans le livre des Nombres, le peuple d'Israël a été séduit avec l'histoire de Baal-Péor. Donc Astarté est la femme de Baal. Et ensemble, et alors là je tombe des nues, vraiment je tombe de haut, ensemble ils forment et sont l'incarnation et l'image du couple suprême, idéal, Astarté et Baal. C'est une déesse qui est censée assurer la fécondité. Et son culte est composé de différentes symboliques aboutissant tout le temps à de la débauche sexuelle, à des excès sanguinaires et cruels. Après de la débauche sexuelle, ben, ces gens sacrifiaient des enfants. Donc vous voyez comme quoi cette vision elle était horrible, c'était pas pour rien. Et elle est pour la démonologie judéo-chrétienne, la démone de la débauche. Donc vraiment l'esprit du mal de la débauche sexuelle. Alors, et là tout de suite je m'interroge. Et je dis, mais quelle conception, aujourd'hui on est en Europe, héritage gréco-romain, quelle conception, si je n'ai pas été éduqué à ce niveau-là, quelle conception j'ai du couple, de l'époux et de l'épouse? Quel standard règne dans ma maison, dans mon lit, dans ma famille, dans mon assemblée, dans l'assemblée des frères saints et des sœurs saintes? Est-ce que ce standard, par qui nous a été imposé? Par qui nous a été donné, comment on en est arrivé là? Est-ce qu'on a le standard de Baal et Astarté, comme standard de couple idéal, ou est-ce qu'on a l'image de Yeshua, de Jésus et l'Église? Est-ce que c'est sa vision à lui qui règne dans nos foyers, ou est-ce que c'est la vision gréco-romaine qui règne dans nos foyers? Et je voudrais vraiment, messieurs, vous parler directement. Parce que je sais qu'il y a une hypersexualisation de la femme en Europe. Ça impacte nos êtres, ça impacte nos yeux, ça impacte nos consciences. On peut pas rouler sur une autoroute sans voir une femme à moitié nue sur un panneau publicitaire. Et nos femmes ne sont pas des déesses de Baal-Péor. Nos femmes ne sont pas des objets de désir sexuel. Comme ça aussi considéré dans une autre partie de la Terre. L'hypersexualisation de la femme moderne en Occident a fait de nos femmes des déesses qui servent le culte d'Astarté. La conception européenne, c'est tout à fait ça, on est en plein dedans. Nos femmes, comme décrit dans Proverbe 31, nos femmes sont des perles précieuses. Et on ne déshonore pas une femme en ayant une conception erronée d'elle. Quand un homme s'approche de sa femme pour avoir une relation intime. Et c'est toute la conception mentale qu'on aura qui va honorer ou déshonorer notre femme dans la relation que nous allons entretenir au travers de tout le mariage. Au travers de tout le mariage, je répète. Alors on traite les perles comme il se doit. Bon, je suis choqué de tout ça, je fais des recherches sur Astarté et je fais des recherches publiques cette fois-ci et je suis hyper étonné, je tombe encore de plus haut. Quand je vois qu'elle est citée dans 1 Roi 11 au verset 5, où on lit un triste, très très triste épisode du peuple de Dieu. Et Salomon a suivi Astarté, divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Salomon. Salomon était l'homme le plus sage d'Israël, de tous les temps et de toute la terre. Jésus hors compétition parce que lui, bon. Salomon était l'homme le plus sage. L'Éternel lui avait donné une sagesse toute particulière. Et Salomon a plié le genou devant Astarté. Et là, je me fais, waouh, ça va loin. Dans 1 Roi, toujours au chapitre 11, versets 33 à 38, et je lis. Alors, ce contexte. L'Éternel s'apprête à énoncer un jugement et il va justifier ce jugement qu'il va appliquer à Israël en disant ceci, en parlant toujours de Salomon. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, dieu de Moab, et de Milcom, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David,
père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie, à cause de David son père, mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Alors ici, on a la raison du schisme, ce qu'on appelle le schisme du peuple d'Israël, qui a été divisé en 2 royaumes, royaume du nord, royaume du sud. C'est à cause de ça. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem. La ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom, je te prendrai, et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. Donc ça, c'est celui qui va devenir roi des 10 tribus d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Et qu'est-ce que c'est Israël? Qu'est-ce que Salomon a perdu? Israël est l'héritage de Dieu. Salomon a perdu l'héritage que l'Éternel avait placé entre ses mains. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. L'héritage de Dieu qui avait été placé entre les mains de Salomon, l'Éternel lui a retiré, il l'a déshérité. Et il a donné à un autre. Et c'est un dur constat. Parce que à chaque homme, l'Éternel a donné de son héritage. Si vous avez une perle précieuse qui est à vos côtés, si vous avez des enfants, l'Éternel vous a donné son héritage. C'est son peuple saint. Et vous ne pouvez pas vous permettre de traiter cet héritage avec légèreté, avec souillure. Cet héritage, il est saint. Et si on ne veut pas que l'Éternel nous déshérite, nous devons comprendre qu'il est important de marcher dans ses voies. Je ne vais pas parler de commandements, je ne vais pas parler de prescriptions, je ne vais pas parler de lois. Marcher dans les voies de Dieu, tout simplement. C'est un dur constat. Ce que l'Éternel a confié à Salomon, il lui a retiré à cause de ce démon, Astarté. On peut perdre l'héritage béni de Dieu et l'onction qui est sur notre vie à cause d'Astarté. On peut perdre notre couple, notre famille, nos enfants, l'héritage que Dieu a remis entre nos mains. Mais l'Éternel dit ceci, « Mais si tu marches dans mes voies, je te bâtirai une maison stable. » Ceci, si tu marches dans mes voies, c'est pas un si conditionnel. Parce que là, on pourrait, nous, mal interpréter le truc et comme des petits religieux dire, ah, on va faire notre liste de choses tout doux, on va mettre des petits checks, et quand j'aurai fait tout ça, bingo, je vais empocher le jackpot, l'Éternel va me bâtir une maison, c'est pas comme ça que ça marche. Ceci, c'est pas un si conditionnel, c'est une invitation de l'Éternel à marcher dans ses voies. Alors, la bénédiction sera, c'est pas vous toucher le gros lot. Vous savez, l'Éternel, c'est un père aimant, et parfois quand vous dites à vos enfants, finis ton assiette et t'auras un chocolat, le chocolat est une invitation à ce qu'il finisse son assiette. C'est pas, voilà. Donc, c'est pas du conditionnel avec l'Éternel, c'est pas une carotte qui fait avancer un âne ou un coup de bâton qui va faire avancer l'âne. C'est pas dans cette relation-là qu'on a avec Dieu. Ça, c'est la relation des païens et de Zeus. Vous savez, quand ils veulent faire la volonté de Zeus pour pas avoir un éclair ou pour s'attirer les faveurs des dieux. C'est pas comme ça que ça marche avec l'Éternel, le seul et l'unique. Et s'il vous plaît, ne l'associez pas aux idoles et aux démons. Alors, c'est une invitation de l'Éternel à marcher dans les voies de la bénédiction. Et pour moi, ceci, ce soir, c'est une invitation à chacun d'entre nous de virer Astarté de nos maisons, de nos lits, de nos conceptions, de nos têtes, et de laisser place à l'Esprit Saint. Voilà. Une maison stable, c'est là-dessus que je vais développer un peu la suite de la vision. Et pour moi, c'est ici qu'elle intervient justement. Tout le sens de cette vision, il intervient ici dans ce qui est une maison stable. Qu'est-ce qui va faire qu'une maison, un foyer va être stable? Ben, le couple. Si le couple est en bonne santé, si papa et maman s'entendent bien, si papa et maman ont une bonne relation, le couple, le foyer, tout le foyer bénéficiera d'une stabilité. Et Maintenant, la question, c'est pourquoi on peut dire qu'ils sont un couple? Bien parce qu'ils se sont mariés. C'est-à-dire qu'ils sont en alliance l'un avec l'autre. Et bibliquement parlant, j'en ai parlé brièvement tantôt, on va revenir un peu en détail. L'alliance, elle va se sceller lors de la première relation intime, la relation sexuelle, la première relation intime entre un homme et sa femme va sceller l'alliance. D'ailleurs, on devait, à l'époque, c'était la tradition, quand cette alliance était scellée, la femme perdait sa virginité, ce qui impliquait un écoulement de sang, et cet écoulement de sang, on devait le montrer aux témoins du mariage. Et par là, les témoins certifiaient que ces deux personnes étaient unies. Donc, vous comprenez par là que c'est une alliance de sang entre un homme et sa femme. Je sais que c'est un peu choquant qu'on n'ait pas de cette culture-là, mais quand vous réfléchissez, c'est tout à fait ce que Yeshua il a accompli pour nous. Il a versé son sang à la croix. Et la nouvelle alliance est une alliance de sang, une alliance qui a été contractée dans le sang. S'il n'y avait pas ce symbole de virginité, le sang, eh bien, l'homme pouvait rejeter la femme. Et il dit, ben non, finalement, on n'est pas mariés parce qu'on n'a pas scellé cette alliance de sang. Donc, j'ai été vers elle, on a une relation intime, mais on n'est pas mariés parce qu'on n'a pas su contracter cette alliance dans le sang. Et il pouvait, ben, pas divorcer parce qu'ils ne sont pas mariés, mais il pouvait la rejeter et dire, non, ce ne sera pas ma femme. Sans aucun préjudice, ni pour elle, ni pour lui. Enfin, bon, généralement, la femme, elle devait être lapidée. Mais bon, ça c'est partie triste de l'histoire. Alors, parce que ça veut dire que cette femme s'était prostituée. On la considérait comme une prostituée. Et l'Éternel il a dit, pas de prostituée dans mon peuple. Mais les femmes de mon peuple ne sont pas des prostituées, pour employer un mot beaucoup plus choquant que ça. Chouraki le fait dans ses versions. Je lui laisse le soin de le faire. Vous savez ce que c'est qu'une prostituée. Et l'Éternel, il dit, mes femmes, les femmes de mon peuple, elles sont saintes et il n'y aura pas de prostituées dans mon peuple. Et vous savez, ce sera la réalité dans le royaume qui vient, dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu. Il n'y aura pas de prostituées, il n'y aura pas de débauchés, il n'y aura pas de sorciers, il n'y aura pas de choses immondes, il n'y aura que des personnes saintes. Donc c'est pourquoi il y avait un jugement de mort, qui sera un jour malheureusement d'actualité quand ce sera le jugement final de cette terre. Alors là, vous comprenez aussi, par là, vous voyez comment on va comprendre tout le sens d'être une épouse vierge. Qu'est-ce que Jésus attend de nous aujourd'hui? Qu'on soit une épouse vierge, pure et sans tache, ni ride. Et il va venir vers nous parce qu'il va revenir sur cette terre. Donc il va venir vers nous. Et s'il voit qu'on n'a pas les signes de la virginité, eh bien il pourra nous rejeter. Et c'est pour ça qu'on lit dans la Nouvelle Alliance, dans des prophéties qu'Yeshua nous explique à ce sujet, des paraboles. En dehors de mon royaume, il y en aura qui ont été rejetés. Il vient aux noces et il voit une personne qui est habillée pas dignement. Il n'a pas les signes de la virginité. Il n'est pas pur. Alors il dit, prenez-le, liez-le et jetez-le en dehors de mon royaume, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors cet endroit, ce n'est pas l'enfer, comme on pourrait le supposer. Mais enfin, soit, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais c'est le néant, c'est-à-dire loin de la présence de Dieu. Et les gens qui sont loin de la présence de Dieu, ben, ils pleurent et ils grincent des dents. Ce n'est pas mon souhait, bien évidemment. C'est justement pour ça qu'on est là. Quand Yeshua viendra, il devra trouver sur nous les signes de la virginité, de la pureté, de la sainteté, ou sinon il pourra nous rejeter. Et le fait qu'on ait contracté cette nouvelle alliance par le repas de Pessah, par le repas de Pâques, par la Sainte Cène avec Jésus, eh bien ça veut dire qu'on est dans cette alliance de sang avec lui. Et c'est ça qui nous rend purs et vierges. Et c'est là où ils sont les symboles de notre pureté. Alors, tout ça est connecté, mais on y reviendra après, on va continuer de parler du couple. Donc ce qui va unir un couple, c'est l'alliance, le sang de l'alliance. Tout comme la nouvelle alliance a été scellée dans le sang de Yeshua. Autrement dit, ce qui va faire l'union de ce couple, c'est bien donc ce symbole de sang. Et là, je voudrais vraiment employer une image. Je voudrais que vous ayez une image mentale de cette alliance scellée dans le sang. Cette alliance scellée, c'est ce qui va être la base. Vous pouvez imaginer une base rectangulaire ou circulaire, peu importe. Ce sera une base sur laquelle l'homme et la femme vont se tenir, et vont se tenir sur cette base. C'est sur cette base de l'alliance, la première relation intime, scellée dans le sang, qu'un couple va être marié. Et c'est sur cette base qu'ils vont se tenir, c'est sur cette base qu'ils vont fonder leur foyer, leur maison, leurs enfants. Ils vont tout former au travers de cette base. Alors, plus cette base sera sainte, au plus le couple sera stable dans le temps. Donc la première relation, cette base, sera l'appui de notre couple pour tout le restant du mariage. La première relation. Alors vous allez me dire, peut-être, vous posez cette question, je ne sais pas, mais si c'est la première relation qui scelle le couple, est-ce qu'il est vraiment utile et nécessaire? Pourquoi multiplier les relations, dans ce cas, au travers de tout le mariage? Est-ce qu'on ne pêche pas? Est-ce que ça ne devient pas juste un plaisir charnel, du coup, s'il n'y a plus rien de... Est-ce que ce n'est pas une pulsion humaine qu'on cherche à assouvir? Est-ce que ce n'est pas uniquement parce que c'est bon? Il faut dire ce qui est. Est-ce que ce n'est pas juste un besoin naturel comme manger, boire, et ainsi de suite? On ne peut pas le mettre au même niveau, bien évidemment, mais c'est un besoin naturel. Ou est-ce que c'est simplement un désir purement et simplement sexuel qui serait malsain avec tous les tabous qu'on a hérités du passé? Avant d'y répondre, pourquoi multiplier les relations intimes? Je veux tuer le malaise direct. En répondant à cette autre question, une question suscite toujours une question, c'est comme ça que ça se passe dans l'enseignement. Est-ce que le plaisir sexuel est interdit? Alors, j'emploie plaisir sexuel, je devrais plutôt dire, est-ce que le plaisir dans la relation intime... Oui, le plaisir sexuel est interdit. Mais est-ce que le plaisir dans une relation intime sainte est interdit? Ben, par le passé, on a vraiment démonisé le plaisir sexuel. On a essayé par des moyens humains de s'en défaire. Tantôt, on en parlait, Bruno. On a fait des vœux de chasteté pour ça. Il y en a qui se sont carrément... ils sont devenus eunuques. Ils se sont castrés eux-mêmes pour ne plus avoir ces... Parce qu'ils pensaient que c'était le démon qui était en eux, qui créait ce désir. Alors, c'est vraiment très interpellant. Et c'est encore plus interpellant que quand on voit dans Ésaïe, il y a des prophéties qui disent que tous ceux qui auront des défauts physiques, qui seront eunuques par exemple, ne pourront pas rentrer dans le tabernacle de Dieu parce qu'ils ont un défaut. Ils se sont eux-mêmes castrés et ils sont plus saints comme l'Éternel les a créés à la base. Et c'est dans cette entièreté-là que Dieu nous veut. Il ne veut pas seulement une partie de nous, il veut notre entièreté. Donc c'est quand même assez interpellant. Et est-ce que le plaisir est interdit? Devenir une seule chair, c'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Je vous épargne les détails techniques, mais ça veut dire ce que ça veut dire, devenir une seule chair. Cette union, elle implique tout d'abord des liens affectifs qui vont se développer, qui vont se renforcer. Première rencontre, j'ai le flash, le coup de cœur. Et puis, il y aura le temps des fiançailles. Là, les liens affectifs vont se transformer de quelque chose de léger en quelque chose d'un peu plus solide. Puis, il y a les liens du mariage où il y a toujours les liens affectifs. Et d'ailleurs, en parlant de liens affectifs, comme quoi c'est au centre d'une relation intime, il ne faut pas que ce soit dénué de liens affectifs. Quand on est fâché, généralement, on va chacun dans notre côté dans le lit et c'est bon comme ça pour cette soirée-là. On n'a pas vraiment envie d'une relation intime quand les liens affectifs, ça ne va pas. Ça prouve, physiquement, scientifiquement parlant, j'ai presque envie de dire, qu'avant tout, cela passe par des liens affectifs en bonne santé. Cette relation, lien affectif, aboutissante aura pour résultat le plaisir que provoque la relation intime d'un homme et de sa femme. Et si c'est bon, c'est parce que le démon le veut comme ça. Et si c'est bon, c'est parce que Dieu est pédagogique et il veut nous enseigner par là que le fait comprendre à l'homme et la femme que c'est bon d'avoir sa moitié dans les liens du mariage, résultat de sentiments affectifs. C'est sain, c'est bon. Et si c'est bon, c'est parce que l'Éternel l'a voulu comme ça. Alors, le plaisir n'est pas un péché, car Dieu qualifie le plaisir réservé aux mariés dans le livre des Proverbes de l'Ecclésiaste. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces livres, mais dans les Proverbes, je vais prendre une simple expression qu'on lit pas tous les dimanches à l'église. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Y a des textes qui disent « Réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse ». Qu'elle se maquille, qu'elle se parfume, qu'elle mate dans son lit, qu'elle fasse un beau lit pour que vous ayez cette relation intime et vous pouvez jouir de ça, il n'y a aucun souci. Donc si l'Éternel n'avait pas voulu que ce soit bon, il aurait fait en sorte que ça ne l'aurait pas été. Puis il y a d'autres, je vous traduis ça littéralement de l'hébreu, que ses charmes, c'est traduit en français, mais en hébreu c'est beaucoup plus clair, c'est que ses seins, t'enivre en tout temps, soit continuellement épris de son amour. Donc, si c'est décrit comme ça dans les Écritures, c'est que il y a un cadre sain à cette relation et que le plaisir n'est pas interdit dans le cadre d'une relation intime. C'est pas un péché, comme on aura pu le croire par le passé. Alors maintenant, revenons au pourquoi. Hein, donc, le plaisir sexuel n'est pas un péché. Un plaisir sexuel, vous comprenez ce que relation intime n'est pas un péché et le plaisir que ça cause n'est pas un péché. Alors, on va revenir au pourquoi d'une relation intime. Pourquoi faire l'amour? Pourquoi le refaire après que l'alliance ait déjà été contractée? Et c'est là que c'est essentiel. C'est ici que tout se croise de toute cette recherche et de cette vision. C'est là où nous, hommes et femmes de Dieu, on doit faire la différence par rapport au monde. C'est là où nous, les hommes, on doit traiter nos femmes dignement. Pas de bassesse dans la relation. Et où notre conjoint n'est pas juste un objet d'assouvissement charnel. C'est là où on ne se contente pas d'avoir une relation sexuelle, mais c'est là où vraiment on va concevoir une relation intime pure dans les liens du mariage, résultat d'une relation affective de longue ou courte durée. La base du mariage, rappelez-vous cette base que je vous ai dit, l'homme et la femme ils se tiennent dessus. La base du mariage, le mariage est scellé lors du premier rapport par une alliance de sang entre ces deux personnes. Et cette base, cette relation, dans le temps, cette alliance va être éprouvée. Elle va être éprouvée. Vous êtes ensemble, solidement accrochés l'un à l'autre. Ben, de temps en temps, ça va un peu se distendre, on va un peu s'éloigner. Disputes, tentations, parce qu'on est dans un monde de requins. Il y a des requins qui tournent autour de nous. J'ai fait des cours du soir. Il y a eu des dames mal intentionnées qui étaient dans le monde. Et ben forcément, quand on se retrouve dans une année comme ça, tous les soirs, à côté de la même personne, ben il y a quelque chose qui va essayer de se faire. Et moi, je suis rentré direct, j'en ai parlé à ma femme. Voilà. J'ai dit, je ne veux pas que la tentation, elle rentre. Je ne me crois pas plus fort qu'un autre. Si Joseph, il a dû courir. Si Salomon, il a plié le genou. Je n'ai pas fait le malin. Je suis rentré à ma femme, j'ai dit, chérie, il y a cette femme qui me tourne autour, qui s'assied tout le temps à côté de moi, elle est trop proche, j'aime pas cette relation. J'ai dit, je vais te le dire tout de suite pour que la tentation ne puisse pas nous écarter l'un de l'autre. Donc il y a tout ça qui va mettre notre base relationnelle, la base de l'alliance en danger. Pensée d'adultère. Je vous ai dit, l'hypersexualisation de la femme en Europe. On voit des femmes à moitié nues au coin de chaque rue presque, c'est honteux. Mais voilà, tout ce qui va éprouver un couple va éprouver la base. Et c'est parce que cette base, elle est éprouvée, bien qu'il est nécessaire de renouveler l'alliance par une relation intime. Et c'est pour ça qu'on ne se contente pas d'en avoir une juste au plaisir, juste la première fois. C'est pour ça qu'avoir du plaisir dans la relation n'est pas un péché. Parce qu'à chaque fois qu'un homme ira vers sa femme, dans des conditions qu'on va définir après, déjà la condition mentale de la conception de son épouse, c'est ce qui va renouveler l'alliance entre deux êtres. Donc à chaque fois qu'on a une relation, c'est pas juste pour du plaisir sexuel, c'est pas un plaisir Chanel, c'est pas une pulsion qu'on veut, non. À chaque fois qu'on y va, on renouvelle l'alliance. C'est comme si on était au premier jour de notre mariage. Moi je trouve que c'est romantique, hein. L'Éternel est quand même fort, il est romantique. Hein. Et je trouve que c'est romantique de se dire, voilà, c'est comme au premier jour où on s'est rencontrés, où on s'est découvert. Et renouveler l'alliance, il faudra, c'est nécessaire. C'est comme avec Yeshua. On est dans une alliance de sang avec lui, la nouvelle alliance. Et vous savez, demain, je peux dire, je ne renouvelle pas cette alliance aujourd'hui avec toi, je me barre, je te renie, j'arrête de croire en toi et je vais me comporter comme un gars du monde. Ben, ce jour-là, dans notre vie, c'est tous les matins, hein, dire, Seigneur Jésus, je veux te suivre encore aujourd'hui, je renouvelle mon alliance que j'ai contractée il y a autant de temps, mais encore aujourd'hui, je veux marcher dans cette alliance. C'est tous les jours de notre vie. H24, 7 jours sur 7, on renouvelle notre alliance. Et avec notre homme, avec notre femme, ben c'est exactement la même chose. Si on va vers elle, c'est pas pour du plaisir charnel, c'est pour renouveler l'alliance. Et il y a toute une conception hein, aussi où l'Église a tellement interdit, ce qui est juste, les rapports sexuels avant le mariage, que forcément ça crée une attente chez les personnes, ils se disent avant le mariage rien du tout, mais après le mariage tu vas voir. Mais malheureusement, c'est que quand on est dans le train-train quotidien qui est un tue-l'amour, ben après le mariage, c'est pas toujours, on n'a pas toujours l'occasion, on n'a pas toujours la forme physique, on n'a pas toujours l'envie morale. Après une journée de boulot, on est exténué ou je sais pas trop quoi. Et forcément, il y a une désillusion qui va se créer et ça peut aussi mettre des tensions dans un couple. Donc voilà. Donc il y a tout plein d'images, mauvaises images, qui sont véhiculées. La routine dans le couple éteint parfois un peu ce feu de la première relation. Et c'est là où il est nécessaire de renouveler l'alliance. Une relation intime et épanouie avec le Seigneur et ses voies dans lesquelles on marche au centre de celle-ci, c'est vraiment ce qu'on doit rechercher. À la place d'une relation médiocre, sans beauté, où en général, c'est le lot de beaucoup de couples, malheureusement. Ils n'ont pas une relation épanouie, une relation intime épanouie, c'est médiocre, sans beauté. C'est pas mauvais en soi, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Et parfois, c'est triste d'entendre que parfois, certaines femmes n'ont pas spécialement envie de leur homme ou certains hommes n'ont pas spécialement envie de leur femme parce que c'est médiocre. Et pourtant, la relation intime, c'est alliance, c'est renouvellement d'alliance. Quand vous repensez à la première fois, ben voilà, à chaque fois, ça devrait faire cet effet-là. Alors, tout ce qui est bon, il faut savoir que l'ennemi le détourne. Et le plaisir d'une relation intime dans le cadre du mariage et d'une considération d'un homme pour sa femme ou d'une femme pour son homme sont les résultats d'une relation affective forte. Et c'est vers ça vraiment qu'il faut plancher. Le plaisir sexuel, la passion charnelle, c'est interdit. Cela s'apparente à de la pornéa, comme c'est décrit dans Actes. C'est de la pornographie. Et quand il s'agit juste de chercher une relation sexuelle pour avoir simplement le plaisir que le sexe procure, détaché d'une relation affective, détaché des liens du mariage, détaché de cette conception du renouvellement d'alliance entre un homme et sa femme, ben ça vire à de la pornographie en fait, et c'est tout. S'il n'y a pas une considération de l'autre ou une relation affective forte, c'est plus sain d'entretenir une relation. Donc là, il y a d'autres problèmes à traiter avant celui-là. Et le monde aujourd'hui transforme la relation intime entre deux êtres en un plaisir sans qu'il soit question d'alliance, ou plus on peut avoir de sexe en dehors du mariage, au mieux c'est, ni de relation affective, parce qu'aujourd'hui, les gens s'aiment pas forcément, mais ils veulent juste avoir du sexe. Et c'est là où intervient Astarté, l'idole. Vous pouvez faire des plaisirs sexuels une idole. Vous pouvez faire de la relation sexuelle, je ne dis pas relation intime où c'est pur et sain, mais de la relation sexuelle, vous pouvez en faire une idole et adorer ce Dieu, ce faux Dieu, Dieu avec un D minuscule, bien évidemment, dans votre lit, dans votre couple. Et là, le renouvellement de l'alliance est mis en péril. Alors, si le renouvellement de l'alliance est mis en péril, qu'est-ce qui va se passer quand on rend ce culte à Astarté, peut-être malgré nous, hein? Le résultat, c'est que cette base sur laquelle on se tient, solide, forte, eh bien, avec le temps, on va l'éreinter, on va l'égrener. Quand un homme va vers sa femme, je vais dépersonnaliser le truc, quand un homme va vers sa femme avec une mauvaise conception pornographique ou sexuelle ou détachée d'une relation sainte, eh bien cette base, l'alliance sur laquelle il se trouve, elle est fissurée, elle est mise à mal, elle est rongée, elle est grignotée, elle est gangrénée de l'intérieur. Et là, il ne faudra pas un grand tremblement de terre pour qu'après 20 ans de mariage, peut-être, 30 ans de mariage, il ne faudra pas un grand tremblement de terre pour que ce couple se sépare, se divorce. Parce qu'en fait, la base sur laquelle ils se tiennent, elle s'est effritée avec le temps, elle est érodée, elle a cassé. Et quand cette base, elle casse et qu'il n'y a pas de renouvellement de cette alliance, ça cause un divorce. Moi, je suis étonné de voir parfois des gens forts dans la foi, pourtant, après 30 ans de mariage, ils divorcent. Et quand on leur demande pourquoi, ils ne savent même pas dire pourquoi. Parce que je ne l'aime plus, donc relation affective. Ou parce que, je ne sais pas, ça ne passe plus, il y a quelque chose qui ne va plus. Cherchez pas midi à 14h, il n'y a plus d'alliance entre ces gens. Parce que peut-être pendant leurs 30 ans de mariage, Au début, c'était sain, et puis c'est devenu malsain. Et puis, vous savez, aujourd'hui, le monde, il véhicule une très mauvaise image de la relation sexuelle, où il faut amener du piment, où il faut... C'est vraiment catastrophique. Il faut faire appel à des trucs externes, extérieurs, sextoys, ainsi de suite. C'est vraiment immonde. Croyez-moi, quand vous marchez dans les voies de l'Éternel, il n'y a pas besoin de vouloir rajouter du piment, parce que l'Éternel, il a bien prévu les choses. On va le voir tout de suite après. Alors, j'accélère et je clôture dans 10 minutes. Une mauvaise conception de la relation intime n'entretient pas la base de votre alliance. Ça vient l'affaiblir, la fissurer. Le mariage peut voler en éclats. Le non-enseignement a laissé le monde entrer dans le lit des croyants. S'il y a tant de couples qui divorcent, c'est à cause d'une conception erronée de la relation intime, qui s'est transformée en plaisir sexuel, charnel, et ça n'entretient pas les relations d'un mariage. C'est pas pour rien que Hébreux 13, au verset 4, il ordonne que le lit conjugal soit sans souillure. Si Paul, enfin, peut-être Paul qui a écrit, c'est pas sûr, mais l'auteur de ce livre, quand il dit ça, que le lit conjugal soit sans souillure, ça veut dire qu'Astarté n'a pas sa place dans notre conception d'une relation intime, ni les déesses de Baal-Péor vis-à-vis de nos femmes. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a même des dérives des femmes qui vont vers l'homme. Ça n'a pas sa place. Elle n'a rien à faire dans nos lits. Ne pas laisser le monde transformer la relation intime entre l'homme et la femme en relation sexuelle qui est malsaine. Vous pouvez vivre une relation souillée, même si vous êtes marié. Et ça, c'est un gros reproche que je fais à l'Église, de manière générale, dans l'histoire du passé. Vous savez, l'Église, pour avoir bonne conscience, pour qu'on ait une bonne image de l'Église, il faut que vous soyez mariés. Mais en réalité, à partir du moment où ils étaient mariés, ils leur laissaient faire toutes sortes de choses. Comment voulez-vous qu'un prêtre qui a fait vœu de chasteté va enseigner un couple à ce niveau-là? Et ça a créé quoi? C'était la porte ouverte à plein de dérives au sein des couples. Mais ils sont mariés. L'extérieur de la coupe s'en porte bien, l'image de l'Église n'est pas trop atteinte, ils vivent en règle devant Dieu, et tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais aujourd'hui, ça fait des ravages dans les couples, ça brise les familles, ça tue les pierres vivantes, cette conception. C'est l'intérieur de la coupe qu'il fallait soigner avant de s'occuper de l'extérieur, parce que quand on soigne l'intérieur, l'extérieur se purifie automatiquement. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Alors ça a laissé la pornographie rentrer dans les couples chrétiens, même si c'est pas forcément via une source extérieure, mais même au sein d'eux-mêmes, ça a pu tourner en pornographie, en plaisir charnel et rabaissant pour la femme comme pour l'homme. Alors on peut vivre une relation souillée même si on est marié, et ça casse les couples. En gros aujourd'hui, j'ai déjà dit, je vais pas revenir là-dessus, c'est une question de conception. La religion s'est attachée aux apparences. Vous devez être marié, et puis le reste, on s'en fout. Et pourtant, c'est grave. Et c'est dramatique. Aujourd'hui, on doit s'intéresser à l'intérieur de la coupe. Et en conclusion de toute cette partie, avant de voir un peu les voies de l'Éternel, ce sera très bref. Mais la première relation intime, ça c'est le résumé de tout ce qu'on a dit jusque-là. Un petit effort mental, s'il vous plaît, chacun d'entre vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui? Ok, super. La première relation intime égale base de l'alliance de sang avec notre conjoint sur laquelle on se tient. Et ensuite, on va entretenir, avec une relation intime pure et sainte, on va entretenir la base de cette alliance. C'est-à-dire que s'il y a une fissure qui s'est faite, eh bien, on va colmater cette fissure par une tentation externe, par une dispute, par peu importe. Et c'est là, quand une fois qu'on se tient sur cette base, c'est là que le mal il va essayer de rentrer. C'est là que le mal il va venir ronger, essayer de rentrer dans cette base sainte entre un homme et sa femme. Et l'impact de la femme libérée, mai 67, 8, c'est pour voir si vous étiez attentif. Merci Bruno. Mai 68, à ce niveau-là, c'est une catastrophe. Parce que je suis d'accord pour le droit de vote pour les femmes, ne me prenez pas pour un, je sais pas quoi, un Trump. Mais cette libération de la femme était là parce que la femme doit avoir aussi sa part dans la relation sexuelle, elle doit aussi avoir son plaisir. l'émancipation de la femme, la pilule, tout ça. Je suis sûr que ça a boosté la pornographie à un niveau pas possible. Et le mal est vraiment rentré par là. Quand on n'a pas besoin d'avoir un mai 68 quand on marche dans les voies de l'Éternel. Parce que la femme est épanouie, l'homme est épanoui. Et il n'est pas question de chercher, mais mai 68 c'est vraiment directement une agression contre l'église de l'époque. Où la femme était un sous-être. Quand vous lisez Proverbe 31, quand vous voyez la valeur que Proverbe 31 donne à la femme vertueuse, perle précieuse, qu'elle soit honorée aux portes de la ville, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'émancipation de la femme, il est dans Proverbe 31, il n'est pas dans mai 68. Et l'émancipation de la femme, c'est l'homme qui l'a fait. Un homme qui traite dignement sa femme, ce sera une femme émancipée. Des enfants qui traitent leur mère avec respect, ce sera une femme émancipée. Parce qu'elle aura tout ce qu'elle aura espéré avoir dans sa vie, elle l'aura. Alors, le porno a explosé, et à cause de tout ça, finalement, les relations intimes tournent en relations charnelles et cultes aux idoles. Et il y a une mauvaise conception du couple, et par la même occasion, ça engendre de mauvaises pratiques. Alors, je voudrais maintenant finir avec 5-10 minutes sur ce que Dieu nous a laissé comme enseignement. Ça va être bref, parce que je vais vous donner les lectures, je vais les survoler avec vous, mais je vais vous donner les lectures. Et si ce soir vous avez été touché par ce que je vous ai partagé, et si vous avez été interpellé que ce message et cette vision a fait écho dans votre cœur, je suis sûr que ces passages, vous allez aller les creuser, vous allez les étudier pour vous-même. Je ne peux pas les étudier à votre place, donc ça ne sert à rien que je le fasse. Je vous donne simplement les bons liens. Clique sur le lien et puis tu iras voir toi-même. Et je vais vous donner ce que Dieu nous a laissé comme enseignement clairement dans les Écritures. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été écrites. Il y a des questions qui m'ont été posées, c'est pour ça que je dis que votre vie privée, c'est votre vie privée. Mais il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées, et les Écritures, c'est vrai, je suis désolé pour ces personnes, je dis les Écritures n'y répondent pas spécialement. Mais en attendant, Dieu nous a laissé des choses, et je vais m'attacher à celles-là. Pour les autres questions, on pourra voir. Mais en tout cas, l'Éternel a défini des moments où l'homme et la femme sont purs. Et donc, l'homme et la femme, dans ces moments de pureté rituelle, peuvent avoir une relation. Et ces moments de relation intime, dans ce cadre-là, va sanctifier la base, va renforcer la base sur laquelle vous vous tenez. Quand vous avez des relations impures, eh bien ça vient affaiblir cette base. Alors, on sait, par exemple, au travers des Écritures du livre du Lévitique, les relations sont formellement interdites quand la femme a son écoulement de sang. Formellement interdit. La femme est considérée dans cette période-là comme étant rituellement impure, et un homme ne peut pas s'approcher de sa femme à ce moment-là. Pourquoi elle est considérée comme étant rituellement impure ? Parce qu'il y a une perte de vie de son corps qui sort et qui est mort dans son corps. Ben, vous savez tous comme moi qu'un corps mort, ben, c'est quelque chose qui est impur. Vous savez, la peste et tout ça, c'est venu au travers des cadavres qui avaient été... Donc quand il y a une perte de vie, quelque chose qui est associé à la mort, c'est impur. Et on ne peut pas avoir les relations à ce moment-là. Et quand j'ai étudié ce passage, il y a un an plus ou moins, j'ai été choqué parce que j'ai ouvert le journal. Le premier titre que j'ai lu, c'est que deux femmes d'un mouvement de libération de la femme ont inventé, ont conçu, je sais pas comment ça s'appelle, je n'ai pas retenu le nom, mais elles ont conçu un truc que la femme peut employer, et pendant qu'elle a son écoulement de sang, elle peut quand même avoir une relation sexuelle sans qu'il y ait contact avec le sang. Donc vous voyez, c'est quand même pas anodin que ce truc-là voit le jour là, maintenant, dans cette période-ci. Mais mon conseil, et le conseil des Écritures, c'est abstenez-vous quand votre femme est dans cette perte de vie, cette période où elle saigne, pas de relation intime. Alors, dans Lévitique 12, il y a des règles après l'accouchement. 40 jours après l'accouchement d'un garçon, un homme ne pourra pas aller vers sa femme. Et moi, ça m'a étonné parce que quand mon épouse a accouché d'Ouriel, le gynéco, il m'a dit « Monsieur, vous laissez madame tranquille pendant 40 jours ». J'ai dit « Mais je la laisse tout le temps tranquille, enfin, j'ennuie pas, quoi. » J'avais pas compris tout de suite. Et là, je suis vraiment resté bête, Parce que connaissant ce passage du Lévitique, quand le gynécologue il m'a dit « Monsieur, vous laissez madame tranquille, pas de relation pendant 40 jours », j'ai fait « Ah, ok !» Donc il prescrit la Bible, ce gynécologue, il est génial. Et j'ai dit « Pourquoi, monsieur le gynécologue ?» Et il dit bah, « Parce que tout l'intérieur de votre femme a été chamboulé pendant les 9 derniers mois et il doit se refaire. Et la restauration de tout l'intérieur d'une femme prend 40 jours. Et si vous voulez éviter des maladies sexuelles ou sexuellement transmissibles, il ne faut pas qu'il y ait de relation pendant ce temps-là, ni pendant l'écoulement de sang, parce que tout se restaure à l'intérieur. Donc, vraiment, je suis abahuri de voir que le gynécologue, la science, donc, hein, dit ça. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important, nous, qu'on comprenne ça pour honorer nos femmes. Parce que c'est l'intérieur de la femme qui fait qu'il est une femme, parce que c'est elle qui porte la vie. C'est son intérieur qui se reconstitue. Et son intimité la plus profonde, la plus interne, se refait, se reconstitue, se régénère afin de pouvoir porter à nouveau la vie. Et pendant ce temps-là, l'Éternel, il nous conseille, pas de relation, respectez l'intimité de votre femme qui se rétablit, qui se refait, qui se reconstruit. Et c'est important. Lévitique 12. Lévitique 15. Il nous parle qu'un homme ne peut pas aller vers sa femme quand il a certaines maladies. Blénorragie, bon, c'est des mots un peu scientifiques, mais et ainsi de suite. Quand il aura un écoulement, il y a parfois des maladies qui créent un écoulement, un flux continu aussi chez l'homme, et il est rendu impur par ce flux, et donc il ne peut pas aller vers sa femme parce qu'il la souillerait, donc ça veut dire il la déshonorerait, il la dégraderait. Ça peut se transformer en maladie pour la femme. Donc c'est vraiment important. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai lu aussi, ça vient. Dans Lévitique 15, il y a une règle, un peu oubliée aujourd'hui, qui dit, une fois que la femme aura fini son écoulement de sang, ça dure, ça varie de femme en femme, mais ça peut durer le temps que ça dure, il dit, quand l'écoulement de sang sera fini, vous compterez 7 jours de purification. Et après ces 7 jours de purification, l'homme pourra de nouveau aller vers sa femme. Et là, je me suis dit, pourquoi il y a ces 7 jours qui sont là? Je comprends pas. Donc, je creuse. Et quand une femme, même principe qu'après l'accouchement, quand une femme a eu ses règles, eh bien, il faut 7 jours pour que tout son intérieur se régénère, se reconstruise. Et l'Éternel dit, pendant ce temps, messieurs, laissez madame tranquille, comme le gynécologue m'avait dit de laisser madame tranquille. Il y a quelque chose quand même de dingue parce que pendant ces relations, si un homme va vers sa femme quand elle a un écoulement de sang ou dans ses 7 jours de purification, ça arrive, c'est hyper rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une hormone que sécrète la femme à ce moment-là qui peut rentrer par l'urètre de l'homme et ça peut rendre l'homme stérile à sa femme, pas à une autre femme, à sa propre femme uniquement. Et la femme peut être rendue stérile à la semence de son mari, pas d'un autre homme. Quand j'ai lu ce rapport, j'ai dit, Seigneur, c'est fou, c'est dingue, quoi. J'ai dit, comment c'est possible? Et l'Éternel, il dit, pendant 7 jours, un homme n'ira pas vers, pendant 7 jours de purification. Alors, il faut respecter le temps de la restauration, de la purification. Ça peut causer des maladies génitales. C'était aussi écrit dans ce rapport médical. Chez l'un et chez l'autre. Pendant l'écoulement de sang, mais pendant les 7 jours après. La femme, elle n'est pas prête, elle doit se restaurer. Alors, 14 jours, ce qui nous amène à un décompte assez cocasse. Dans un mois, 14 jours, 15 jours, 14, 15 jours, ça dépend, avec relation intime, 14, 15 jours sans relation intime. Et là, j'ai dit, pourquoi tu as divisé le mois en deux, père? J'ai dit, moi, je veux savoir. Je ne veux pas me contenter de c'est écrit, alors je vais le faire. Et tant que je n'avais pas pris ce commandement à cœur, j'ai continué de vivre comme avant. Mais quand l'Éternel il m'a expliqué, il dit, eh bien, ces 14 jours sans relation intime, eh bien, c'est pour vous l'occasion de retourner au temps des fiançailles, les 7 jours de purification. C'est-à-dire, l'épouse est théoriquement disponible parce qu'il n'y a pas d'écoulement de sang qui la rend indisponible. Mais pendant ce temps-là, tu vas pas aller vers elle. Tu vas t'abstenir comme au temps des fiançailles. Et le temps des fiançailles, pour ceux qui ont un bon souvenir de ce temps des fiançailles dans leur vie, moi j'ai un très bon souvenir de mon temps de fiançailles, c'est un moment où on prend énormément de temps pour dialoguer, pour connaître la personne, moralement, pas simplement la connaître physiquement, mais c'est plus une relation morale et spirituelle qui y a entre l'homme et la femme dans ces 7 jours de purification, dans le temps des fiançailles. Et l'Éternel, il fait, pour vous, c'est l'occasion de retourner aux fiançailles directement et d'avoir votre temps de les liens affectifs, c'est pendant le temps des fiançailles. Et là, les liens affectifs peuvent se refaire, se reconstituent, se recomposent. Et après, pendant 14 jours, un homme peut aller librement vers sa femme. Et l'Éternel bénit cette relation. Alors, c'est un temps où on doit en profiter pour les liens sentimentaux, pour les liens de communication, pour tous ces liens-là. Et moi, je trouvais ça vraiment chouette. Je trouvais ça vraiment beau. D'ailleurs, une fois, ma famille, pour nos 10 ans de mariage, je pense, la famille de ma femme, nous avons offert un week-end, une nuitée ensemble, et c'était tombé dans la mauvaise période. Et j'ai dit à mon épouse, c'est pas grave, on va retourner à notre fiançailles. Même qu'on est mariés, alors on peut dormir ensemble. Mais voilà. Et pour nous, ce week-end, il a été très bénissant. Ça a refait les liens affectifs. C'était le temps de se poser, de faire la question sur notre couple. Et finalement, on a passé un temps et spirituellement, on a été enrichi, on a grandi. Alors, c'est important. Maintenant, encore une fois, je spécifie, il n'y a pas d'obligation. Je ne veux pas vous forcer. Mais c'est simplement des lois qui sont écrites et je voulais vous les énumérer. Après, c'est entre vous et Dieu. Après, si vous avez vraiment envie de rentrer dans l'observance des voies de l'Éternel, à vous de vous remettre personnellement, intimement, avec votre conjoint devant l'Éternel et dire, Seigneur, inscris ta loi dans mon cœur parce que je veux marcher dans ces voies. Et s'il n'y a pas de consensus, je ne veux pas mettre la zizanie dans vos couples, hein, au contraire. Mais donc vraiment, soyez, agissez comme il se doit. Et alors au chapitre 18, dernière indication scripturaire, qui pour moi est très importante. Il y a des pratiques sexuelles qui sont interdites. Un homme n'ira pas vers sa sœur, n'ira pas vers sa tante, il découvrirait la nudité de son père. Bon, c'est tous des trucs un peu compliqués et techniques. Mais clairement, il y a des relations sexuelles qui sont interdites au sein d'une même famille, trop proches. Bon, tout ça, ça va parce que les nations dans lesquelles on se trouve ont véhiculé un peu ces enseignements de base. Hein, faut se réjouir pour les quelques perles de la Bible qui restent dans la société moderne. Et encore, faites gaffe, parce que j'ai lu aux States qu'ils commencent à marier une mère et sa fille. Ah oui. Ils ont marié une mère et sa fille. Alors, c'est là-bas maintenant, c'est arrivé là-bas. Ça va arriver ici. Hein. Ça va, parce que pour l'instant, on parle simplement du mariage homosexuel. Mais après, ça va être quoi la prochaine étape? Oui, mais je veux dire, quand je vois la décadence qui est encore plus grande là-bas, je veux dire, combien de temps il faudra pour que ça arrive chez nous en Europe? On a marié un homme et son crocodile ensemble, ou sa chèvre. Non, mais je veux dire, c'est vrai, on a fait ces choses-là légalement, c'est certifié par l'État. Ils sont unis par les liens du mariage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Donc, hein, le chapitre 18, il est assez clair. Mais dans ce chapitre 18, je vais vous lire ce bref passage. Oui, je sais que je deviens long, je vous demande encore quelques minutes d'attention. Ce bref passage du début du chapitre 18, versets 2 à 5. Oui. Je suis l'Éternel votre Dieu. Alors, déjà, quand l'Éternel y commence dans les Écritures, cette formulation, c'est genre, il a mis du surligneur pour qu'on fasse doublement attention, quoi. Là, il dit, attention, ouvrez vos yeux, parce que l'Éternel emploie son nom 3 fois 5. Ici, nous, en français, on dit, je suis l'Éternel, mais en hébreu, on lit le nom du tétragramme qu'on ne peut pas prononcer. Et la seule fois dans l'an où c'était prononcé par le souverain sacrificateur qui ressortait du lieu très saint avec le pardon pour le peuple, il disait Shalom Alechem, puis il disait ce tétragramme de l'Éternel, tétragramme qu'on a symbolisé par Yud He Vav He, hein, ces 4 lettres, en français c'est YHVH. Et on lit dans les Écritures, pas qu'il se prosternait, mais que par la puissance de ce nom, il tombait face contre terre. Tout le peuple qui était là à la sortie de la tente de la rencontre. Donc c'était vraiment le nom saint de l'Éternel. Et ici l'Éternel, il commence en disant « Je suis Ani Yudevavhe ». Et là, il suffit de dire ça et tout le peuple y tremblait, quoi. Ils étaient là, ils attendaient, quoi, Dieu, qu'est-ce que tu veux dire, papa? Vas-y, mollo, on est. Et cette révélation de Dieu, elle est puissante. Et il commence ce passage comme ça et il le termine comme ça au verset 5. Ani Yudevavhe. Donc ça veut dire que ce qui est contenu entre ces deux mises en évidence de la part de l'Éternel, c'est juste primordial. Okay. Donc il dit ceci. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point. Et ça pour moi, vous savez, il n'y a pas beaucoup de lois qui nous ont été données dans les Écritures au niveau des pratiques. Par exemple, Paul, il est très clair, il dit la sodomisation, comme on voit Sodome et Gomorre, formellement interdit, c'est-à-dire la relation qui n'est pas naturelle pour se reproduire, c'est formellement interdit, sodomie, c'est de la sodomie. Et ici, l'Éternel, pour moi, il nous donne une règle générale, cadre général. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances, vous observerez mes lois, vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis Ani Yudevavhe. Moi, le tétragramme imprononçable, présence de Dieu, vraiment quelque chose de puissant. Et ici, on sait que de manière générale, il n'y a pas beaucoup de commentaires sur les relations sexuelles interdites. Mais il y a des choses qui ne sont pas naturelles, comme je les ai décrites. Mais il y en a d'autres qui coulent de source. Et pour moi, Paul nous parle d'un principe très intéressant. Il nous parle de la lettre de la loi. Alors selon la lettre, il n'y a pas énormément de choses qui nous ont été données, à part chapitre 12, 15 que je vous ai cité juste avant. Il y a ce chapitre 18. Mais puis Paul, il parle de l'esprit de la loi, qui est lié à la lettre de la loi, bien évidemment, mais qui nous amène aussi plus loin. Et la présence de l'Esprit Saint dans nos vies, eh bien, elle sert justement à ça. Là où il n'y a pas de règles scripturaires, là où il n'y a pas de choses qui nous ont été dites, eh bien, l'Éternel, il nous a envoyé son Esprit pour nous enseigner, en temps et en heure, ce qui convient d'être enseigné. Et, par exemple, voilà, parlons des sextoys. Dans la loi scripturaire, vous n'avez jamais trouvé quelque chose à ce niveau-là, parce que je pense que ça n'existait pas. Ou ça, si ça existait, il y avait d'autres dérives à l'époque, hein, mais vous n'en trouverez pas. Pourtant, selon l'esprit de la loi, je peux vous dire que c'est profondément contre nature. Enfin, c'est l'esprit qui témoigne de ça en moi. Et j'emploierai jamais ces choses-là. Comme rajouter du piment sexuel, faire appel à des choses externes au couple et toutes ces choses-là, profondément contre la loi. Les voies contre nature. Et l'Éternel est très clair. Où le pays vous vomira, il dit à son peuple. C'est-à-dire vous serez exilés, vous serez tout simplement jetés en dehors de mon royaume, si vous faites ces choses-là. Si vous suivez les pratiques du monde, de l'Égypte, de Canaan, voilà. Et pour moi, ce qui est une règle générale ce soir de l'esprit, c'est dans vos relations intimes, entre croyants, n'employez pas les pratiques, les usages qui se font dans le monde. Je veux dire, je peux pas donner quelque chose de plus clair que ça. C'est très général, vous allez me dire, c'est très vaste. Mais en attendant, c'est la réalité. Alors oui, pas de relation dégradante contre nature pour l'homme et la femme. Alors, l'importance de se préparer. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Eh bien, on peut comprendre. Si vous voulez comprendre la pensée d'Yeshua, un époux qui se prépare pour une épouse pure, sans tâche et consacrée à son époux, bien, je pense que ça passe d'abord par nos couples. Et si vous voulez comprendre, vous les hommes et même les dames, c'est pas ça, mais si au sein de notre couple, on veut comprendre c'est quoi le désir brûlant de Jésus d'avoir une épouse pure, sans tâche, eh bien ça passe par la purification de nos êtres et nos couples avant tout. Et là, on pourra dire, tiens, je peux comprendre la pensée de Jésus qui réclame, qui pleure, qui languit après une épouse pure, vierge et sans tâche. Et moi, je veux comprendre la pensée du Christ. Je veux l'intégrer, je veux la vivre. Je ne veux pas juste la comprendre, je veux la vivre. physiquement, dans mon âme, dans mon esprit, je veux la vivre. Parce que c'est eux qui auront la victoire dans la fin des temps, c'est eux qui tiendront bon, c'est eux qui passeront entre les mailles du système de la bête, et ainsi de suite. Et en vivant un lien fort avec notre femme, on pourrait savoir de quoi Yeshua veut parler quand il nous dit un époux consacré pour une épouse consacrée. Si on ne le vit pas avec notre conjoint direct, avec la personne qui est là à côté de nous sur cette base de cette alliance scellée dans le sang, comment voulez-vous comprendre le niveau spirituel quand déjà on ne le comprend pas physiquement? Alors, ce soir, ma conclusion, c'est je ne veux pas accuser qui que ce soit. Je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit pour votre passé. Je devrais me pointer moi-même pour mon passé. Parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on apprend, qu'on découvre. Si l'Éternel lève le voile maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et pour les jeunes couples, c'est particulièrement important. Pour ceux qui vont se marier, qui se sont juste mariés, c'est particulièrement important de partir sur une base sainte et pure. Les autres, vous pouvez purifier, vous pouvez rendre encore plus sainte la base sur laquelle vous vous tenez déjà. Il s'agit d'une rééducation. Si l'Éternel vous met ses voies à cœur pour la sanctification de votre couple, il faut lui dire, Père, inscris tes commandements dans mon cœur, alors ce ne sera pas un fardeau lourd, alors ce ne sera pas une loi rigide, mais j'embrasserai ta loi, elle sera inscrite dans mon cœur, tes voies seront inscrites dans mon cœur et je les vivrai naturellement et librement. C'est une rééducation, c'est du long terme quand on doit être rééduqué parfois à ce niveau-là. La femme ne doit pas prendre de décision sans l'accord de son mari. Le mari ne doit pas prendre de décision sans l'accord de sa femme. Très important. Et vice-versa. Hein. Paul est clair, il faut un commun accord. Parfois on va réussir, parfois on va échouer. Ben, c'est pas grave. Pour ceux qui voudraient, moi je vais obliger personne, c'est entre vous et Dieu, c'est pas entre vous et moi. Une rééducation, ça veut dire essai-erreur, c'est de l'apprentissage. Et puis si le Saint-Esprit vous donne pas la conviction que vous devez marcher dans ces voies-là, ben voilà, faut pas aller contre ce que le Saint-Esprit nous demande pas de faire. On peut tirer des leçons, avancer à tous les niveaux. Déjà, pour moi, le plus gros de ce job, c'est pas forcément les trucs scripturaires, c'est la conception mentale qu'on a. D'honorer notre femme, et pas d'une déesse de Baal-Péor, pas de culte à Astarté dans nos couples. Déjà, tout ça, c'est un gros morceau. Alors, faut tirer des leçons, faut avancer. On évolue. On va revenir en arrière, on va aller de l'avant, on va tomber. On a dit, vous tombez, ben, c'est pas grave, vous repentirez, je vous relèverai, vous continuez d'aller de l'avant, et ainsi de suite, repentance. Repentance, c'est pas égal à culpabilité. J'espère aussi que ce soir, il n'y a pas de culpabilité, que l'ennemi n'est pas en train de jouer avec la culpabilité pour vous frapper sur la tête et vous dire « Ah, t'as vu ce que t'as fait, c'est pas bien. » Faut oublier tous ces concepts religieux. Il n'y a rien de mal fait, on peut faire que mieux. Et c'est ce que l'Éternel, il nous tend la main ce soir, c'est ce qu'il nous dit ce soir. Faut pas laisser place à la culpabilité, aux accusations dans les pensées. Faut simplement remercier Dieu d'être parvenu à ces révélations aujourd'hui et de dire « Éternel, ben, sanctifie-nous davantage. » Et je pense que ça, on peut tous dire amen. Et il y a des règles communautaires, il y a des règles pour l'ensemble du peuple. Mais après, c'est entre vous et Dieu que ça se passe, ok? C'est votre relation personnelle avec lui, c'est pas la mienne avec vous, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Merci pour votre attention, pour votre écoute.